Ma préférence, Irène Finkel, bonjour. Ma préférence, le magazine culturel d'Esprit Occitanie. Comme toujours dans Ma préférence, on va parler théâtre, littérature, mais également séries et aussi également jazz. Voilà, vous connaissez le menu, c'est Ma préférence et c'est parti. Alors, exceptionnellement aujourd'hui, Jacques Lavergne est absent, donc je vais présenter cette émission non pas toute seule, puisqu'on est quand même nombreux aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir avec moi Chloé Cardino. Bonjour Chloé.
Bonjour Irène, bonjour à tous.
Notre chroniqueuse théâtre. Et puis, j'ai la chance de recevoir Jérôme Alouche. Bonjour Jérôme.
Bonjour.
Jérôme qui est venu nous parler du premier festival de jazz, Jazz à Figeac, qui aura lieu, la première édition aura lieu du 27 au 29 mai. Nous allons en parler tout de suite. Et puis, bonjour également à Tiffaine, notre fidèle technicienne. Merci à toi Tiffaine.
Bonjour, merci.
Jérôme Alouche, alors ce festival de jazz, c'est tout nouveau ?
Oui, c'est une première. Ça sera la première édition de ce festival qui vient compléter l'offre culturelle déjà riche à Figeac, plus dans le monde du théâtre ou de la musique classique. Et voilà, on a pensé qu'il manquait, il manquait un festival de jazz.
Alors on a pensé, on va revenir au début de cette aventure. Qui a pensé, pourquoi, comment est né ce projet et qui est à l'origine de ce projet?
Alors en fait, c'est vraiment un groupe d'amis figeacois qui sont passionnés de jazz, voilà, et qui évidemment étaient des habitués des festivals régionaux,
Marciac,
Souillac, Sète, et qui se sont dit pourquoi pas à Figeac. Voilà, donc ça a démarré il y a à peu près un an, en plein Covid.
L'idée a démarré.
L'idée, tout à fait, le projet. En plein Covid, et voilà, et donc c'est parti de cette envie d'avoir du jazz à Figeac.
Mais vous n'êtes pas de Figeac ?
Non, mais j'ai des amis localement, donc voilà, ils m'ont...
Vous êtes la pièce rapportée ?
Oui, voilà, je suis pianiste de jazz, et donc ils m'ont proposé de me joindre à eux pour cette aventure, et j'ai accepté.
Vous êtes pianiste professionnel ?
Oui, c'est une partie de ma vie, en tous les cas, importante.
D'accord. Alors, racontez-nous cette première édition. J'ai l'affiche sous les yeux. Alors déjà, j'imagine que l'affiche a été faite par un artiste local.
Oui, Lolmed, qui est un peintre figeacois, tout à fait.
Il a eu des directives pour faire cette affiche. Est-ce que vous pouvez la décrire pour nos auditeurs ?
Oui, donc on voit un saxophoniste assis sur un mur avec un trou dans le mur qui rappelle la lune qui apparaît également en fond de l'affiche. Et surtout, ce que contient l'affiche, c'est les grands éléments du programme.
Les grands éléments du programme. Alors, 27, 28, 29. Pourquoi 3 jours ? Pourquoi ces 3 jours-là ?
Alors, c'est le week-end de l'Ascension. Donc, c'est un week-end qui permet normalement d'accueillir pas mal de gens qui seraient partants pour un week-end prolongé. Et ça nous permet d'avoir 3 jours pour cette première édition. Sachant qu'on commence même le jeudi soir avec une projection d'un film sur Michel Petrucciani. Et les concerts commencent à partir du vendredi jusqu'au dimanche.
D'accord. Ce sont des concerts qui ont lieu en extérieur ou en intérieur ?
Alors, on a 2 grands concerts qui ont lieu en intérieur, dans la salle François Mitterrand, qui est la grande salle de spectacle de Figeac.
Quelle est la capacité d'accueil ?
500 places.
D'accord.
Les autres concerts, on a voulu évidemment jouer avec la ville, c'est une très belle ville, donc on a voulu mettre à profit et mettre en relief la beauté de Figeac au travers du festival. Donc on a des concerts qui se passent également en ville, dont certains sont gratuits d'ailleurs et qui nous permettent de profiter de la beauté des lieux.
J'ai plein de questions.
C'est une très belle ville, ouais.
Chloé, tu as peut-être déjà des questions, mais j'en ai beaucoup parce que vous parlez de Figeac, vous parlez de l'Ascension, vous parlez des spectacles. Alors évidemment, on veut savoir comment on peut se restaurer sur place. Vous allez nous donner toutes ces réponses. Comment on peut acheter les places ? Est-ce qu'on peut arriver sans en avoir acheté au dernier moment et tenter notre chance ? Comment on fait pour être hébergé? Remarquez, dans le Lot, il y a ce qu'il faut. Il y a nombre d'hôtels, le Airbnb et tout ce qui s'ensuit.
Oui, il y a des très chouettes hôtels, même dans le centre. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'être hébergé dans un hôtel parce que j'y ai joué à Figeac au cours d'un tournage. Et j'en ai fait du coup deux hôtels et ils étaient très, très sympas. Il y en a un en plein cœur, là, sur une petite place, qui est très, très mignon. Les gens hyper adorables. Et puis, j'ai goûté un restaurant aussi. Je ne me souviens plus du nom, là, sinon je l'aurais dit, parce que c'était très bon aussi.
Bon, Jérôme, vous avez vu les étoiles dans les yeux de Chloé. Ouais. Donc, je pense que là, déjà, ça lui donne envie de retourner à Figeac.
Oui, donc, on a effectivement, il y a quelques jolis hôtels localement, mais il y a aussi tout un réseau de Airbnb, chambres d'hôtes, gîtes, qui permettent d'accueillir un public qu'on espère nombreux. Sachant que Figeac, on parle souvent du grand Figeac, c'est-à-dire en fait c'est Figeac, Cap-de-Nac, de Decazeville, donc un certain nombre de villes qui ont également leur capacité d'accueil. Et on peut évidemment manger sur place et la région est riche en spécialités gastronomiques.
Comment a été fait le choix de la programmation? Ce sont des artistes locaux?
Alors, on a pas mal d'artistes locaux. C'est aussi un souhait qu'on avait au moins pour cette première édition d'avoir des artistes de la région au sens large. On a également, je peux parler de la programmation dès maintenant, si
vous voulez. Ah, mais bien sûr.
on a dans notre, on va dire, notre grosse tête d'affiche deux jazzmen qui ne sont pas du tout de la région, qui sont Lionel et Stéphane Belmondo, qui sont des artistes connus sur le plan international et qui viennent avec le Big Band des Sables d'Olonne, le BBS, Beach Band des Sables, qui est un big band qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce que notre directeur artistique, en fait, est le directeur de ce big band. Donc là aussi, c'est plus par des connexions amicales, voire familiales, qui s'est retrouvé embarqué dans cette aventure. Et grâce à lui, on accueille donc les frères Belmondo pour le grand concert du samedi soir. L'autre grand concert et l'autre grosse tête d'affiche qu'on aura, c'est Amaury Faye, qui est un pianiste, lui, toulousain, qui est un pianiste parmi les plus brillants de sa génération. C'est un jeune pianiste qui a été reconnu et apprécié non seulement en France, mais en Europe. Voilà, qui vient pour le deuxième grand concert du vendredi soir avec son trio. Donc les deux grands concerts auront lieu à la salle François Mitterrand.
Donc les deux grands, pour que je comprenne bien, c'est sur trois jours, enfin avec le film le jeudi soir. Sinon les concerts ont lieu le vendredi soir, le samedi soir. Il y a des animations en journée?
Oui, alors on aura également d'autres concerts. Donc ça commence le vendredi après-midi. Puisqu'en fin d'après-midi, on aura un groupe figeacois qui s'appelle Café Crème qui va jouer au château de Saint-Do, qui est un très beau château figeac.
Ça permet de découvrir en même temps la ville.
Voilà, donc c'était l'intention.
C'est l'utile à l'agréable.
D'inscrire vraiment la musique dans la ville. Le samedi matin, on aura un groupe qui s'appelle le Mystère des éléphants, qui est un groupe de Revel. Qui est un groupe entre fanfare et jazz qui va déambuler dans la ville. Donc c'est festif, c'est gay, c'est un mélange de jazz, de musique d'Europe de l'Est.
J'espère qu'il n'y aura pas de pluie.
Nous aussi. le samedi après-midi, on aura un autre concert dans l'hôtel du Viguet du Roi, qui est un très bel endroit dans le centre de Figeac. Et donc j'aurai le plaisir de jouer avec le trio AMJ, donc une chanteuse, Antonella Lucia et... une contrebassiste, Mélissa Renard et moi-même. Donc ça, c'est pour le samedi. Samedi soir, donc, le concert à la salle Mitterrand. Et le dimanche midi, nous aurons un brunch musical avec un groupe qui est un groupe toulousain qui s'appelle Jaspirine Quartet. C'est un groupe New Orleans voilà, qui va nous accompagner pour ce brunch musical en plein centre de Figeac.
C'est chouette. Comment ça se passe pour la réservation?
Alors, la réservation, si vous êtes à Figeac, ben, vous pouvez aller à l'office du tourisme. Mais si vous n'êtes pas à Figeac, ça se fait en ligne, tout simplement, donc via notre site internet que vous trouverez par tout bon moteur de recherche, Festival de Jazz Figeac, vous allez tomber dessus. Et là, vous pouvez acheter vos places directement, réservées en ligne.
Vous avez une page Facebook pour faire de la pub?
Tout à fait. Donc, on a une page Facebook.
Instagram aussi, j'imagine.
Instagram, ça va venir.
D'accord. Ok.
On est en, on, C'est la première édition, donc on met tout en place en même temps et parfois on est un peu en retard sur certaines choses.
Vous avez dit, Jérôme Alouche, êtes vous-même pianiste professionnel. Est-ce qu'on peut vous entendre sur place?
Oui, donc je jouerai le samedi après-midi.
Samedi après-midi, voilà.
Oui, j'ai retenu.
Excusez-moi.
Que je connaissais, je crois.
Avec AMJ Trio. Oui.
Voilà. AMJ Trio. Tu connais pas, Irène?
Non, du tout.
C'est super.
Du tout. Et alors, cette première édition, j'imagine qu'elle va être un peu une édition test pour savoir si vous la refaites l'année suivante.
Oui, bien sûr. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un festival qui s'inscrive dans la durée, dans le temps. Donc, cette première édition, évidemment, on a eu un très fort soutien des acteurs locaux, que ce soit privé, la mairie de Figeac... l'ensemble des acteurs qui ont vu, qui ont tout de suite accueilli avec bienveillance et avec tout leur soutien cette initiative. Et évidemment, on espère que ce festival va s'inscrire dans la durée. On a eu également un très bon accueil, un très bon soutien de l'équipe de Souillac. Il y a un gros festival de jazz à Souillac qui est là depuis plusieurs années. Ils nous ont vraiment aidés. Donc voilà, il n'y a pas du tout de concurrence, au contraire, des synergies, parce que plus il y a de festivals,
bien
plus il y a du jazz qui vit et mieux les amateurs se portent.
Toujours, ça sera toujours sur 3 jours. Ça, c'est un format qui...
Alors, pas forcément.
Pas forcément.
La première édition, on démarre comme ça. On va
oui,
voir un
parce
peu
que
comment...
petite édition de test.
C'est dit, on va apprendre en marchant et on verra.
C'est ça. Bon, ben, en tout cas, on vous souhaite plein de jolies choses pour cette première édition. Et puis, on espère que vous allez rencontrer le succès.
Il fera beau temps.
Exactement. On aura peut-être l'occasion de vous revoir et puis d'en parler, de faire un premier point. Ça pourra être intéressant.
Avec grand plaisir.
Et j'aimerais également... Alors, j'ai souhaité que vous nous choisissiez un morceau de jazz, si possible, et que vous nous fassiez part de ce choix et nous dire pourquoi vous avez choisi ce morceau.
J'avais une petite question avant.
Oui, bien sûr, Chloé.
Est-ce que vous avez vu le dessin animé Soul? Justement.
Alors, je ne l'ai pas vu, j'en ai entendu parler, mais il paraît qu'il est extraordinaire.
Alors, je l'ai vu.
Quand on aime le jazz, j'imagine qu'on...
Je l'ai vu.
Il est super, tu as aimé ?
Oui, beaucoup.
Moi, j'ai vraiment aimé, et quand on aime le jazz, j'imagine que ça parle.
Oui, j'ai beaucoup aimé.
Pardon, excusez-moi, c'était...
Non, pas de
soucis. Je t'en prie, Chloé.
Mon côté enfant qui est ressorti.
Oui, donc j'ai choisi un morceau de Michel Petrucciani qui s'appelle « Looking Up ». Alors pourquoi ? Parce que, bon, étant pianiste, voilà, il y a des gens comme ça qui sont inspirants et qui ont marqué cette musique, et Michel Petrucciani en fait partie. Et en plus, on aura donc en ouverture du festival un documentaire remarquable qui est dédié à sa vie le jeudi soir. Donc voilà, ça me semblait tout à fait indiqué.
Alors on écoute. Thank you. Voilà, on a repris, alors pendant les très bavards de Chloé, là, pendant la pause. Mais c'est vrai que c'est une.
C'est intéressant.
Une musique qui amène à avoir une certaine ambiance. Merci Jérôme pour ce choix. Vous restez avec nous ?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
Ah, avec grand plaisir. Alors, c'est à toi, Chloé, de nous parler du théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir actuellement ?
Alors, à l'heure où vous nous écoutez, ce sera déjà passé, mais je voulais quand même en parler parce qu'il y aura des représentations en octobre prochain. Et moi, j'ai vraiment hâte de découvrir cette pièce. Donc, j'en reparlerai, bien sûr, mais c'est une pièce... qui s'appelle L, comme la lettre majuscule, point. Et c'est écrit par Muriel Darras. Et en fait, jeudi 14 avril, là, le soir, donc au moment où vous écoutez ça, c'est déjà passé, il y a une lecture exceptionnelle, une lecture théâtralisée virtuelle en accès libre, en direct sur YouTube. Donc, vous pouvez vous le faire demain. Et totalement gratuite, bien sûr. Et ils invitent ensuite à participer à un chapeau virtuel, éventuellement. Et ils vont nous faire découvrir cette pièce que Muriel Darras a écrite. Donc, c'est une comédienne de Toulouse que j'affectionne particulièrement depuis que je suis adolescente, de mon premier stage dans un théâtre, au Théâtre Sorano, où je l'ai rencontrée avec sa troupe, Le Grenier de Toulouse. Et c'est vrai que je parle souvent d'elle parce que... elle est inspirante, ses projets sont toujours super. Et là, elle a mis en scène une jeune comédienne qui s'appelle Joanne Guillet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée.
Du tout.
Avec une belle chevelure rousse.
Du tout.
C'est un spectacle sur la transidentité. Donc, c'est vraiment un sujet dont on parle pas mal en ce moment. Et elle a écrit là-dessus parce qu'elle donne des cours, Muriel Darras, à des jeunes collégiens et lycéens, il me semble. Et elle a pas mal d'élèves qui ont fait leur coming out, que j'emploie ces mots, je l'ai eu au téléphone ce matin pour qu'elle m'en parle en direct. Et ça la touche beaucoup, ça lui parle, et elle a eu envie d'écrire sur eux, certainement un peu. Et donc, elle a mis en scène Joanne, et donc c'est... je vous fais le résumé parce que je trouve qu'il est super. Donc, ça s'appelle Elle, comme le prénom Louis. Et vous comprendrez qu'il y a aussi l'amalgame avec le Louis, lui. Parce que donc, le résumé, c'est Louis est né, lui. Mais ce rêve, elle. Elle est Louis, Louis est elle. Elle est une femme, elle. C'est l'histoire de Louis et de son grand frère Alexandre. Elle, c'est l'histoire de leur famille. Elle, c'est son histoire. Pourquoi elle ? C'était la première lettre de mon prénom. C'était une façon de crier mon secret. Je ne signais pas Louis, mais elle. Donc, en effet, Louis, c'est une personne qui est donc née dans un corps genré garçon, mais qui se sent femme, fille. Et donc, moi, c'est un sujet que je connais finalement assez peu. Et ça m'intéresse beaucoup parce que...
Oui, on en parle beaucoup.
On en parle beaucoup. Et c'est vrai que moi, je me souviens, adolescente... m'être demandé qu'est-ce que c'était que ce corps de femme qui poussait là, et je me disais mais je me sens mal là-dedans, et je sais pas si j'avais eu tout ça à l'époque, où j'en serais maintenant. Et donc j'ai vraiment envie de me renseigner davantage sur le sujet, sur la transidentité. Ça a l'air très beau. Elle m'a dit que c'était plein d'humour, que c'était rigolo, mais pas que forcément. Il faut savoir que c'est un sujet aussi assez important parce qu'elle me dit que le plus grand taux de suicide, c'est chez les transgenres. Et donc, il faut vraiment...
Donc, cette personne, on peut l'écouter demain en direct sur YouTube, c'est ça ?
C'est ça, exactement. Le jeudi 14 avril à 21h, ce sera Joanne qui va faire la lecture, j'imagine. Je pense qu'elle est seule, mais je n'en suis pas tout à fait sûre.
Donc, on tape Joanne ?
Non, on va sur le site du Grenier de Toulouse.
Ah, directement, d'accord.
Voilà, il y a tout qui est expliqué. L'âge requis du public, c'est 11 ans à peu près.
C'est très bien de faire ça, c'est de l'information. C'est de l'information.
Oui, c'est de l'information.
C'est
et donc là, on peut découvrir le texte et après, on pourra voir la pièce au Théâtre du Pavé en octobre. Et là, je vous en reparlerai
parce que
on va pouvoir le voir. Ils sont en train de travailler depuis des mois. Elle a écrit pendant... Elle a déjà fait lire son texte autour d'elle. Elle a eu plein de retours, mais Muriel a vraiment hâte d'entendre les retours du public et des gens qui ne connaissent pas du tout le sujet.
Par contre, bon, c'est vrai que quand on passera l'émission, on va passer samedi, donc le demain jeudi sera
j'avais
passé.
J'avais tellement hâte de parler de ce projet, je trouve génial.
Mais enfin, j'imagine qu'on pourra toujours aller sur YouTube dès samedi et trouver certainement ce podcast.
Alors non, justement.
Ah mince.
C'est pour ça que je m'étais dit, bon, c'est un peu frustrant, c'est vrai, d'en parler là, mais comme ça vous tease pour octobre prochain. Et puis vous pouvez toujours aller quand même si vous n'avez pas entendu le texte encore, soutenir le projet sur Hello Asso, sur leur site. Parce qu'en fait, c'est une représentation en direct sur YouTube, donc exceptionnelle, justement, puisque comme la pièce n'a pas encore été montrée, montée sur scène, tout ça, c'est exceptionnel. Voilà, donc je voulais en parler, mais je vous en reparlerai en temps et en heure. Et on va reparler de Muriel, je vais enchaîner avec Muriel aussi, parce qu'elle a un spectacle là que vous pouvez voir tout de suite. C'est du 4 au 22 mai, donc dans à peu près 2 semaines, si je ne me trompe pas. Et ça s'appelle Misery. C'est de William Goldman, d'après la nouvelle de Stephen King. Mm-hmm. Donc la célèbre nouvelle, moi je ne l'ai même pas lue, j'ai un peu honte, mais je vais découvrir du coup avec Muriel et j'en suis très contente. Et il n'y a pas que Muriel qui joue dedans, il y a aussi Loïc Carcassès, qui est un comédien assez jeune, qui est super aussi, que j'ai vu plusieurs fois là-bas. Et c'est mis en scène par Pierre Matras. Et donc ça, c'est du mardi au samedi à 20h30 et le dimanche à 16h. J'ai vu qu'il y avait aussi un bord de scène à une des dates. Alors pour Misery, le bord de scène, c'est le 5 mai. C'est toujours chouette de voir des bords de scène. C'est à l'issue de la pièce, on peut discuter et poser des questions aux comédiens. Et alors là, je voulais le résumer.
C'est comme les avant-premières au cinéma avec le réalisateur à la fin. C'est
exactement ouais, la même exactement, chose. Exactement, c'est super intéressant. Et alors,
oui, ça donne un bon retour du public en fait.
C'est ça. J'avais envie de lire le résumé, mais en même temps, elle m'a expliqué au téléphone et je trouve qu'elle donne tellement envie. Donc, je vais essayer de reprendre un peu ses mots. Donc, elle me disait que déjà que c'était un rôle dont elle rêve depuis qu'elle a 14 ans. C'est un peu le rôle de sa vie, enfin, qu'elle voulait vraiment jouer. Et enfin, elle peut le jouer après 2 ans d'attente parce qu'en fait, c'était une pièce qui devait sortir avant le confinement et qui a été repoussée, puis repoussée, puis repoussée. Et enfin, ça y est, elle peut... enfin le jouer. Et donc c'est l'histoire d'une femme qui est fan des romans de l'auteur Paul Sheldon, un auteur à succès qui écrit avec une héroïne qui s'appelle Misery Chastain. Et un jour ce monsieur a un accident et c'est cette dame celle qui est fan donc qui s'appelle Annie Wilkes, je sais pas comment ça se prononce. Qui le trouve sur la route et il se trouve qu'elle est infirmière et donc au lieu de l'amener à l'hôpital, elle le prend chez elle et elle le soigne, elle lui donne les meilleurs soins quand elle voit que c'est lui, que c'est son idole. Et sauf qu'elle apprend qu'il a écrit la suite de ses romans, son dernier roman, et dans ce roman-là, il tue son héroïne, Misery Chastain, il l'a fait mourir. Et alors là, ça va pas du tout pour Annie, c'est impossible que son héroïne meure et elle va le séquestrer pour l'empêcher de faire sortir ce livre et de tuer son héroïne, quoi. Donc ça a l'air drôle et à la fois il paraît que c'est assez, enfin c'est du Stephen King, quoi. Donc il paraît qu'ils l'ont joué une fois ou deux, mais pas dans Toulouse, je crois. Elle me disait qu'elle avait entendu le public faire non 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 comme on fait dans les films des
oui,
thrillers.
Oui, mais en plus, moi je parle toujours du cinéma, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent au cinéma, cette histoire de on veut pas que le personnage meure dans le livre. Donc ça, c'est des choses qu'on a déjà vues.
Quand on est attaché à un personnage, je sais que moi c'était j'étais un peu la génération Harry Potter et peut-être Tiffen, pas forcément. Ah non, elle est plus jeune. Bon, quand même, ça a duré longtemps, Harry Potter. J'espérais avoir du soutien.
Je suis trop vieille. Non, moi, j'ai grandi avec Le Seigneur des Anneaux. Désolée.
C'est la catégorie au-dessus.
Voilà.
Donc, ça, c'est... Mais c'est vrai que du coup, on s'attache aux personnages, on les voit grandir et je comprends tout à fait Annie Wilkes. Apparemment, ça a été interprété et sublimé par Kathy Bates. Alors, ça doit être au cinéma. Peut-être que vous savez mieux que moi, ça, d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez vu, si ça a eu lieu en film, Misery, mais... Écoutez, voilà, ça m'a donné vraiment envie. Donc ça, c'est du 4 au 22 mai. Je peux continuer ou parce que moi, j'ai trop de trucs, mais si vous voulez, on peut s'arrêter
là. Oui,
elle
a encore deux, trois petites minutes.
J'essaie d'aller vite. Il y a les Sinox, ça, je peux aller très vite. Un vaudeville à 6 personnages, entièrement improvisé par 2 comédiens. Ça, c'est au Grenier Théâtre. Pas au Grenier Toulouse, au Grenier Théâtre. Fedo & Co, ça s'appelle. Les Sinox, c'est leur compagnie. C'est deux copains de ma troupe qui s'appellent Laurent Berthier et Joris Ladugui. Ils sont complètement fous, complètement barjots. Je l'ai déjà vu une fois et c'est n'importe quoi. Et en plus, on peut aller voir toutes les dates parce que c'est du 27 avril au 7 mai. Et comme c'est de l'improvisation, c'est tout le temps différent. Et la dernière chose que j'ai vue, alors là, c'est une compagnie que je ne connais pas du tout, mais ça avait l'air très chouette. C'est au Théâtre du Grand Rond. La compagnie, c'est Rift Company. C'est une pièce qui s'appelle Funérailles. Et c'est sur...
C'est pas une compagnie toulousaine, ça
Alors, j'ai l'impression que si. J'ai l'impression qu'ils font des spectacles pour enfants, pas mal.
Ah, d'accord.
Et ils parlaient des spectacles, dans le résumé, des spectacles pour enfants qu'ils font, enfin, pour en tout cas le jeune public. Et donc, c'est... Voilà, ils disent, après plusieurs créations pour le jeune public, ce spectacle de la Rift Company nous fait entrer dans cet espace peu commun des pompes funèbres. Plus précisément, avec deux employés des pompes funèbres. Vous savez, ces métiers dont on dit qu'ils sont... qu'ils sont de drôles de métiers, ceux qu'on oublie la plupart du temps quand tout va bien, mais finalement nous les avons tous croisés, alors pourquoi ne pas les mettre sur le devant de la scène, pourquoi ne pas les interroger, pourquoi ne pas en rire. Ça m'a donné envie, ça avait l'air très chouette. Et puis le dernier, j'en ai encore un dernier, mais c'est un spectacle pour les enfants. Ça, c'est vrai, je parle jamais des spectacles pour enfants.
Oui, et c'est bien de le faire.
Et ça, c'est... donc Guillaume Douat, qui est un copain, moi, oui, il a un nom assez particulier. Mais il est super. Et Laurane Parik, en alternance. Oula, je suis fatiguée. Laurane Parik, en alternance avec Charlène Petitclerc, qui font avec la compagnie Tapage. C'est un spectacle au fil à plomb qui s'appelle « Ces petits bruits qui nous lient » du mardi 3 au samedi 7 mai à 15h30. C'est pour les enfants de 2 à 8 ans, mais les parents peuvent y aller vraiment parce qu'en fait, ils font des claquettes.
Ah, c'est chouette.
Si vous avez déjà vu des spectacles de claquettes.
Oh, et... oui.
Ouais, moi, j'ai déjà vu danser Guillaume et c'est génial. Bah, ça va très bien avec le jazz,
très,
d'ailleurs.
Très jazz, les claquettes.
Bien sûr.
Et Guillaume, je l'ai déjà vu danser et il est super fort. Moi, j'ai essayé quelques cours.
Moi aussi, j'ai essayé quelques cours, mais c'est vraiment un sport extrêmement difficile. C'est très complet, très physique. Oui.
Comme pour dire alternance ou alternative. Là, oui. Je suis à la ramasse, mais du coup, ça a l'air super. Et c'est la rencontre de deux rêveurs que tout oppose, mais que les objets du quotidien inspirent. Voilà.
Merci beaucoup. Merci Chloé pour cette intervention. Alors, c'est au choix de musique pour Tiffen, là.
Alors, moi, à la base, je voulais prendre un morceau d'Orelsan parce que c'est un artiste que j'aime beaucoup. Sauf qu'entre-temps, il y a Big Flo et Oli qui ont sorti leur dernier album. Enfin, leur dernier morceau qui annonce leur prochain album, qui est Sacré Bordel. Alors, il faut savoir que Big Flo et Oli, c'est deux artistes que j'aime beaucoup depuis le lycée. Parce que, et là, il le montre très bien avec ce morceau, c'est qu'ils ont vraiment cette capacité à aborder tous les sujets avec une espèce de subtilité, sans tomber dans le manichéisme, et avec beaucoup de justesse. Et c'est vrai que quand on sait qu'ils ont commencé au lycée, c'est impressionnant de voir qu'ils ont un tel recul et une telle conscience des réalités, ça me scotche vraiment. Donc voilà, du coup, j'ai choisi ce morceau.
Mais c'est bien d'avoir choisi Big Flo et Oli, puisque, on le rappelle, ce sont... deux
plus,
artistes toulousains.
Et qui
voilà.
Tombent parfaitement parce que ça tombe juste avant les élections.
Alors, on écoute ce morceau.
Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos? Longtemps qu'il a pris la poussière, le mien ne m'a pas trop servi. Pourquoi ça me gêne moins quand c'est celui de l'Argentine ou bien de l'Algérie? Je réponds, je suis français, d'un air hésitant, comme si on doutait devenait évident. Peu importe le bord, peu importe le camp, on m'a dit de détester le président. Je viens du pays où il fait toujours beau, mais aussi de celui où il pleut tout le temps. Dis-moi de qui je suis le descendant, des collabos ou bien des résistants? Autant de cons que de complexes. Si je pars, vous allez pas manquer. Mais à l'autre bout du monde, premier réflexe. Je cherche, il y a des Français. J'aime la France comme une tante avec qui je suis pas toujours d'accord, qui fait trop peu d'efforts, mais pour qui je chialerai toutes les larmes de mon corps à sa mort. T'as vu depuis combien de temps ça dure? Amour ou haine, c'est pas une mince affaire. La police, celle des sales bavures ou celle en première ligne à l'hyper cachère? Voir ailleurs, prendre du recul, essayer de couper la poire en deux. Quand on part en Inde, on se sent français. Quand on en revient, on se sent chanceux. Souvent, on trouve les réponses quand on les attend pas. Ici, c'est à celui qui mentira le plus sincèrement. On sait qu'après les coupes du monde ou les attentats, comme ces familles qui se réunissent qu'au mariage ou aux enterrements. Ça te fait bizarre, mais je l'aime ce pays. Celui qui me taxe et me couvre d'impôts. Celui qui paye pour moi la pharmacie, qui m'emmenait gratuit voir la mer en colo. Son histoire, j'en connais ses horreurs, mais aussi sa puissance. Je suis pas responsable de ses erreurs, mais je dois faire avec ses conséquences. Trop de promesses. On fait connaissance, mais combien se connaissent? Faut qu'on progresse pour être honnête. Moi, la France, j'ai tendance à l'écrire avec un S. On fabrique à l'étranger si c'est moins cher. Et toi, tirer où si venait la guerre? On oublie l'histoire, on refait l'histoire. La paix au pied du mur de nos frontières. Mon padre vit en français, mes rêves en espagnol. Est-ce que c'est grave? Et il écrit Vive la France avec une faute d'orthographe. Beaucoup de questions, peu de réponses. J'ai que les paroles d'une chanson. Comment être un artiste engagé quand je sais pas vraiment quoi penser? Tout ce qui est sûr, c'est que je suis français, que mes grands-parents ne l'étaient pas. Mais ce qui compte, c'est plutôt l'arrivée ou la ligne de départ. Et putain, ce que j'aime la France, pour son histoire, pour ses châteaux, pour ses cathédrales, pour sa campagne, pour sa culture, pour ses montagnes. Eh ouais. Mais on se bouffe entre nous comme des cannibales. Tous dans le même bateau, ça c'est capital. Plus de nuances que du radical. Tous cachés derrière une barricade. Tout le monde sait tout, hein. L'estime de soi est haute. On rejette la faute sur l'autre. Mais les autres, c'est nous. Et paraît qu'il y a le feu à la chapelle. Le pays de Jeanne d'Arc ou de Jamel. Paraît qu'être aigri, c'est notre fierté. Qu'on est les rois de la liberté. Dans le grimoire, il y a les Gaulois, il y a les chevaliers. Mais dans la cuisine, il y a ma grand-mère. Et ses tatouages berbères effacés. Des fois je me dis, viens je me casse. Je prends une maison au bord d'un lac. Et puis le soir, devant la glace, je me ravise de partir comme un lâche. Parce que je crois que j'aime ce pays malgré tout. Quand j'en pars, je ne pense qu'à mon retour. Elle est belle ma France et son terroir. Même si c'est pas moi qu'elle voit dans le miroir. Je me dis qu'on pourrait le faire. Briser le plafond de verre. Au lieu de pointer les différences de chacun, se concentrer sur tout ce qu'on a en commun. Les parties de Monopoly, pleurer sur les sons de Johnny. Écouter les conseils des vieux. La Bretagne même s'il pleut. Prendre plein de médicaments.
L'aspirine et le doliprane.
Omar Sy et Zida.
Dire que c'était mieux avant. La vie en rose d'Edith Piaf. Les perles de pluie de Jacques Brel. Faire des sculptures avec le truc rouge qu'il y a autour du Babybel.
L'heure de l'apéro.
Pas assumer la gueule de bois.
Râler quand il fait trop chaud et...
Râler quand il fait trop froid.
La France je l'aime, je veux encore d'elle. Français de la tête aux orteils. Mais toutes ces erreurs qui nous précèdent. Voilà pour elle un beau poème. Sacré mélange, sacré cocktail. Certains me disent qu'il est mortel. Mais malgré tous les problèmes, je t'emmène dans mon sacré bordel.
Merci Tiffaine pour ce choix. C'est toujours évidemment plaisant d'écouter des artistes toulousains et d'autant plus Big Flo et Oli. On leur souhaite une très très longue route encore.
Je peux en profiter pour faire passer un message?
Oui, bien sûr.
En fait, j'essaie désespérément de les avoir pour une émission parce que je sais qu'il y a leur festival qui arrive. Donc si jamais il y en a qui les connaissent de près ou de loin, n'hésitez pas à filer le contact. Et si jamais... par je ne sais quel miracle, des intéressés écoutent ça. Bah, écoutez, si vous êtes intéressés ou si les personnes sont intéressées, vous pouvez me contacter sur la page Esproxitanie ou sur la page Facebook Bord de Seine. Voilà.
Voilà pour.
Tiffen, donc, c'est pas Tinder, là.
C'est pas Tinder, voilà, c'est Tiffen Lemaine. Et vous pouvez effectivement la contacter, notre technicienne.
Vous êtes célibataire, c'est mieux.
Ouais, c'est encore mieux, mais.
Alors, c'est, restons sérieux, c'est au tour de Pascal Sabatier de nous parler de la littérature. Est-ce qu'on a Pascal en ligne?
Je suis là.
Allô? Oui,
allô.
Bonjour Pascal.
Bonjour Irène.
Comment ça va?
Ça va.
Alors aujourd'hui, Jacques n'est pas là, mais je suis quand même en très bonne compagnie puisque je suis avec Monsieur Jérôme Alouche qui est venu nous parler du premier festival de jazz qui aura lieu du 27 au 29 mai à Figeac dans le Lot. Et puis notre Chloé Nationale, notre chroniqueuse théâtre. Alors voilà, nous sommes là tous les trois pour écouter la chronique littérature. Qu'est-ce qu'on a de beau à lire?
Alors d'abord, bonjour à vous trois. Et puis aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman américain qui est édité chez Gallimestier. C'est vrai que c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. C'est des livres qui sont essentiellement autour de la nature. Bon, ils se diversifient un peu maintenant, mais j'aime beaucoup cette collection-là. Et ça s'appelle Le lac de nulle part et c'est un roman de Pete Fromm.
Pascal, le lac de, j'ai mal entendu.
De nulle part.
Ah, de nulle part, d'accord. Mmh.
Donc, ça raconte l'histoire de Trigg et Hal, qui sont frères et sœurs jumeaux, et qui n'ont plus de contact avec leur père depuis près de 2 ans, quand tout d'un coup il réapparaît dans leur vie et il leur réclame une dernière aventure qui est 1 mois à sillonner ensemble en canoë les lacs du Canada. Alors, ils avaient l'habitude dans leur jeunesse de faire ça avec leurs parents, qui ont divorcé il y a bien longtemps. Et donc, ils acceptent un peu parce qu'ils sont excités de se retrouver et de retrouver la complicité de leur enfance. Et puis, ils sont un peu intrigués par ces retrouvailles soudaines. Ils ont rendez-vous à l'aéroport et là, leur père a oublié les bagages. Enfin, pas tous les bagages, mais des bagages essentiels pour la randonnée. Donc ils trouvent ça un petit peu bizarre, mais bon, qu'à cela ne tienne, ils vont acheter ce qui leur manque et les voilà partis. Mais dès leur arrivée, quelque chose semble ne pas tourner rond. Leur père a aussi oublié les cartes, et même s'il connaît bien la région, les jumeaux se demandent si ça va suffire, parce qu'on est au mois d'octobre, c'est déjà bizarre comme choix pour faire une randonnée, surtout au Canada, parce que l'hiver arrive très très vite. Bref, les voilà partis de lac en lac, de bivouac en bivouac, et les choses vont assez vite se gâter. Au fur et à mesure qu'ils avancent, les souvenirs remontent à la surface, les bons, les moins bons, les non-dits également. Et puis la neige va arriver, et puis, je vous laisserai voir la suite vous-même. Alors, ce que je veux vous dire, c'est que Pete Fromm excelle vraiment à décrire les sensations, les émotions, sans trop en révéler. Il réussit à merveille à analyser la complexité des liens familiaux, ça c'est vraiment sa spécialité. Et en même temps qu'on s'émerveille de la beauté de ces grands espaces, parce qu'il faut dire que c'est très beau, c'est très bien décrit, de la faune sauvage, on a peur que les ours arrivent, bon, ils savent de moins en moins où ils sont au fur et à mesure qu'ils avancent, les lacs se ressemblent tous, en étant un peu différents aussi, mais sans carte c'est très compliqué. On sent l'appréhension qui gagne au fil des pages et cette nature qui est très majestueuse et aussi majestueuse que dangereuse d'ailleurs, se referme sur eux et elle va se refermer sur nous en même temps dans une espèce de huis clos très intimiste. La nature est vraiment un personnage à part entière dans le roman. Elle nous enveloppe de glace, de neige, de froid et ça participe à cette ambiance incertaine et très menaçante. Alors j'aime beaucoup cet auteur, Pete Fromm, je le lis depuis son premier roman. Il a un style d'écriture simple, très fluide, très agréable à lire, et puis il a cette faculté de se mettre dans la peau des personnages, alors en particulier des personnages féminins, ce qui m'a toujours étonnée, c'est pas toujours évident de la part d'un écrivain homme. Et il les rend tellement réels et vivants qu'au fil des pages, on a l'impression de voir évoluer des personnes qu'on connaît depuis toujours, intimement presque, c'est à la fois étonnant et très agréable. Alors voilà, vous pouvez lire tous les romans de Pete Fromm dans les collections de poche de chez Gallmeister. Ils sont tous excellents. N'hésitez pas. Voilà, donc ça s'appelle Le lac de nulle part de Pete Fromm et c'est édité chez Gallmeister.
En tout cas, pardon Pascal, ça donne envie. Donc c'est un auteur constant d'après ce que vous dites.
Oui, franchement. Bon, je ne dis pas qu'ils sont pas tous au même niveau. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Mais franchement, on s'ennuie jamais. Et non, vraiment, si vous ne le connaissez pas, ça vaut vraiment le coup. Vraiment, Pete Fromm.
Et donc, sur le dernier, on voyage avec des beaux paysages.
Toujours. On voyage toujours avec de très beaux paysages.
D'accord.
En général, je pense que c'est un gars qui vit dans le Montana, je crois. Donc, on est souvent dans ces paysages montagneux, dans les rocheuses. Bon, là, il s'éloigne un peu. Il va au Canada, mais ça reste... C'est très montagne, hein. On va pas trop à la mer avec Pete Fromm, mais il faut aimer la montagne, mais c'est vraiment très très agréable à lire, et puis surtout ces personnages sont très très attachants. Moi j'aime beaucoup la façon qu'il a de présenter ces personnages, et c'est très souvent des personnages de femmes, donc voilà.
Donc une écriture fluide et facile à lire.
Facile à lire, très facile à lire. On l'a découvert surtout en France l'année dernière avec La vie en chantier. Peut-être je vous en avais parlé, je ne me souviens pas. Mais il avait très très bien marché ce livre. Et donc il commence à être un peu connu en France, comme les éditions Gallmeister aussi, qui ont quand même bien percé depuis quelques années. Donc voilà pour le premier. Le deuxième, c'est un roman de Wendell U3. Alors c'est un nom à coucher dehors avec un billet de logement. Mais c'est un français. il est du Nord, je pense, c'est un gars du Nord, et il écrit essentiellement des romans policiers jusqu'à présent, mais celui-ci n'est pas du tout un policier, ça s'appelle Le Paradis des Vauriens, et ça a été édité chez Slatkin et compagnie à la fin de l'année 2021. Donc ça raconte l'histoire de Hugo qui est un jeune garçon qui rencontre Kalia, on est en 1948, après la guerre, il a 11 ans, elle en a 13, et elle vient le secourir alors qu'il est tombé dans une embuscade que lui ont tendue quelques vauriens du quartier. Bon, il faut dire que ce gamin, il arrive de la capitale, on saura après qu'est-ce qui s'est passé pendant sa prime enfance, pour l'instant, quand le roman commence, on ne le sait pas. Et donc, il est tombé dans une embuscade, donc, et c'est une gamine qui vient le sauver. Alors, elle, c'est Kalia, elle est la fille adoptive du ferrailleur, elle est d'origine manouche, donc sa réputation est toute faite, autant dire, et elle n'a qu'à l'entretenir, ce qu'elle va faire. Elle le défend, et là, à partir de ce moment, pour Hugo et Kalia, ça va être à la vie et à la mort. Donc, leur histoire nous est racontée un chapitre sur deux à la troisième personne, et le reste de l'histoire, c'est Hugo lui-même qui la raconte. Alors elle commence en 1962, ça c'est le tout début du roman. Et le jeune homme a 25 ans alors. Il débarque comme un vagabond, sans rien, avec un baluchon sur le dos, dans un petit hameau de la Drôme, dans une ferme où il va travailler. Et ce qui s'est passé entre-temps et ce qui va advenir de la suite, c'est le roman de Wendell Utroy, c'est ce qu'il nous raconte, c'est ce qu'il nous offre dans ce roman, et c'est vraiment une formidable histoire, c'est plein d'aventures, de drames, d'émotions, il y a des bons, il y a des méchants, il y a une belle histoire d'amour au final, et c'est vraiment impossible de s'ennuyer une seconde en lisant ce roman. Et il renoue avec un genre un petit peu tombé en désuétude qui est la saga romanesque, mais Wendell Utroy, qui vient du polar, il la remet au goût du jour, en y ajoutant quelques ingrédients du polar, un peu de violence, du suspense, et l'alchimie fonctionne parfaitement. C'est vraiment très réussi. Donc, vraiment, je vous engage à le lire, Le Paradis des Vauriens de Wendell Utroy, chez Slatkin et compagnie, et c'est sorti il y a quelques mois. Voilà, pour aujourd'hui.
Ben, en tout cas, vous le racontez bien, parce que ça donne vraiment envie, vraiment, vraiment toujours envie de lire les livres que vous nous proposez. Merci beaucoup, Pascal. On se dit à dans 15 jours.
À dans 15 jours.
Au revoir, à bientôt.
Au revoir, à bientôt.
Alors, c'est l'heure de mon choix. C'est l'heure de mon choix de musique. Alors, sans surprise, comme tous les 15 jours, j'ai choisi de vous faire écouter mon chouchou, c'est-à-dire Benjamin Biolay. Pour ceux qui suivent l'émission, c'est mon choix tous les 15 jours. J'avais envie de vous faire écouter aujourd'hui Mala Siempre, qui était la chanson qui passait dans mon ancienne émission Ainsi va la vie. Je trouvais qu'elle collait parfaitement au sujet de l'émission qui parlait d'un invité, de son parcours de vie. Et je n'avais pas réécouté cette chanson depuis la fin de l'émission Ainsi va l'envie l'an dernier, et j'avais envie et de la réécouter et de vous la faire découvrir pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'écouter Benjamin Biolay. Voilà.
t'es un bon enfant, mi chiche, qu'elle te tire comme une biche à bout portant pépère.
Un plaisir, alors je me fais plaisir et j'espère que je fais plaisir à tous les auditeurs en écoutant Benjamin Biolay. Alors je vais faire comme Tiphaine, je sais qu'on n'est pas sur Tinder, mais Benjamin, si par le plus grand des hasards tu écoutes cette émission, sache que tu es le bienvenu.
Bon ben moi, Leonardo DiCaprio,
c'est moi qui avais prévu de couper
Jérôme, la partie. Jérôme, allez-y, faites-vous plaisir.
Je réfléchis.
Pénélope Cruz peut-être.
Mince, moi qui avais prévu de couper ça au montage, du coup je ne vais pas pouvoir.
Jacques n'est pas là, il va nous en vouloir.
Ah oui, c'est
ça.
Sûr. Hein. Alors c'est au tour de notre chronique. Série télé qui nous est faite tous les 15 jours par notre ami Grégory Combe. Alors on écoute Grégory qui nous parle aujourd'hui de la fin ratée d'une série qui s'appelle The Big Bang Theory et du film avec Sandra Bullock qui est sympathique mais pas révolutionnaire, m'a-t-il dit, mais il ne m'a pas donné le titre. Alors on va tout savoir en écoutant la chronique de Grégory.
Chère Irène, vous savez, en ce moment, je suis en train de regarder à nouveau Friends, série comique assez extraordinaire, et quand j'aurai refait les 10 saisons, je vous ferai une critique à froid de ce que je pense de cette série maintenant, même si, effectivement, elle a été culte. Et ça me fait rappeler qu'en fait, on a eu énormément de séries qui sont présentées comme ceux qui allaient détrôner Friends et qui n'ont jamais réussi. On a eu How I Met Your Mother, qui, à partir de la 4e saison, est devenu complètement nul, avec un final horrible, et on a eu The Big Bang Theory, qui partait très bien, et qui aussi a très très mal fini. Donc, cette critique, je vais parler de Big Bang Theory, et je vais vous expliquer pourquoi la fin trahit la série, pourquoi cette série est devenue nulle, et va sombrer dans l'oubli. Donc ça va être full spoiler, voilà, je le dis clairement, je vais parler complètement de la fin. Alors, Big Bang Theory, le début est assez génial, c'est-à-dire qu'on met en avant Leonard et Sheldon, qui sont deux geeks et deux scientifiques, qui habitent dans un appartement, qui sont un petit peu galériens, et on a en face Penny, une ravissante blonde qui s'installe en face de leur appartement, et évidemment Leonard va tomber de suite amoureux, va essayer de la draguer, il va y avoir beaucoup de péripéties pour savoir si la jolie blonde va sortir avec le geek introverti et un petit peu moche. Évidemment, autour d'eux, il y a d'autres geeks, il y a Howard, qui est complètement pervers, et Raj, qui a tellement peur des femmes qu'il ne peut pas parler en leur présence. Et au début, franchement, ça partait bien, parce qu'il y avait vraiment un respect de la culture geek. Les geeks, en fait, c'est ceux qui aiment les jeux vidéo, les mangas, la science. Il y avait un vrai respect, et d'ailleurs, les épisodes tournaient autour de « Tiens, un nouveau jeu vidéo sort », il y avait des sketchs dessus. Donc c'était vraiment une ode aux geeks, et on rigolait avec eux. Et souvent, on se moquait justement des personnes qui se moquent des geeks. C'était plutôt sympa. Et puis est arrivé le fait qu'à un moment, il a fallu, dans le scénario, qu'on trouve une petite copine à chacun des héros, et au fur et à mesure, la culture geek, ben en fait, elle est sortie. Et je me souviendrai toujours de cet épisode, c'est à cet épisode que j'ai compris que la trahison de la culture geek commençait. C'est l'épisode où les copines des héros leur enlève au fur et à mesure leurs figurines de Batman, de Superman, leurs posters, leurs jeux vidéo, en disant bah, « c'est pas normal tout ça, il faut grandir, donc en fait, il faut partir sur autre chose ». Et là, je me suis dit, mais attendez, donc le message de la série qui nous disait « on va rigoler avec les geeks », c'est « si vous avez des jeux vidéo, si vous avez des bandes dessinées, c'est pas bien ». Bon, qu'ils viennent pas voir mon appart, hein, parce qu'il y en a partout, hein, des bandes dessinées Batman, des jeux vidéo. Donc déjà, je me suis dit, c'est un problème. Puis après, pour plaire au plus grand nombre, eh bien en fait, ils ont décidé d'en faire une série classique, à la Friends, c'est-à-dire on sort avec des filles, ça marche pas, on sort avec d'autres. Voilà, donc ça a commencé à tourner là-dessus, c'était pas génial. Et arrive la fin. En fait, pendant toute la dernière saison, on nous vend le fait que Penny ne veut pas d'enfant. C'est son choix. C'est-à-dire que c'est une femme qui décide à un moment de ne pas vouloir d'enfant. Et il y a des discussions avec son compagnon, qui lui en veut, mais qui dit « je comprends, je t'aime, j'ai envie de rester avec ». Je vais revenir là-dessus après, c'est important. Et ensuite, effectivement, on efface un petit peu tout ce qui était le personnage principal et le but de cette série, qui était la relation Penny-Léonard, pour ne parler en fait que de Sheldon et sa femme, qui veulent avoir un prix scientifique, et en fait toute la saison est basée là-dessus, et donc finalement le héros est effacé face au personnage de Sheldon, qui était le préféré des fans. Vous savez, souvent on a un personnage secondaire comme ça qui devient le préféré des fans, et la série préfère mettre en avant ce personnage secondaire, plutôt que le héros initial, mais ce qui loupe un petit peu dans la narration. Et donc, une fois qu'on a ça, donc Sheldon et sa copine reçoivent un prix scientifique, on s'en doutait. Howard s'est installé dans sa maison, et papa de deux enfants, donc c'est bien. Raj, il a galéré à trouver une petite copine, donc bon, voilà, c'est un peu comme dans Friends, hein, Joey. Et finalement, on apprend à la fin que Penny tombe enceinte, sans le faire exprès. Et elle est heureuse, elle dit en fait, t'avais raison, il fallait vraiment que je fasse un enfant, c'est la révélation. Ça m'a gonflé. Alors voilà, la trahison, elle est multiple. Elle est multiple parce qu'on parle plus des geeks, on parle plus de la culture geek, on parle en fait d'un soap classique, donc ça a perdu sa substance. Et la trahison, elle est terrible parce que je me suis dit, enfin on va aborder le sujet de couples qui n'ont pas envie d'avoir d'enfants. On va mettre un peu de diversité justement dans ces couples-là. Et la trahison, c'est de dire que pendant une saison, on va développer cette histoire, et à la fin, ben non, en fait, faut que vous ayez des enfants, sinon vous n'êtes pas heureux, sinon c'est pas la vraie vie. Voilà pourquoi The Big Bang Theory est un ratage complet. Elle a trahi son public initial, c'est-à-dire qu'on ne rigole plus avec les geeks. À la fin, on se moque des geeks, et on explique quand même qu'à un moment, il faut grandir. Enfin, qui vous êtes pour nous juger. Ensuite, on nous dit que ben, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'avez pas d'enfants, ben, vous avez un peu raté votre vie et vous n'avez pas de but comme il faut. Et la dernière trahison, c'est ce qui devait être une série humoristique est devenu un soap classique avec des histoires d'amour. Pourquoi cette série va sombrer dans l'oubli et pourquoi elle n'est pas à la hauteur de Friends? Friends, il y a des épisodes formidables et effectivement, la série s'est un peu perdue, notamment les deux dernières saisons, mais elle a quand même peu trahi son sujet. The Big Bang Theory, sur ses 3-4 dernières saisons, progressivement, a complètement trahi son sujet, complètement trahi ses fans initiaux, qui d'ailleurs ont déserté. Hein. Après, effectivement, il y a eu des records d'audience, et en termes financiers, ils ont eu raison. Mais c'est pas une série culte geek. Donc si vous cherchez une série culte geek, regardez Chuck, qui respecte les geeks au maximum, et rangez The Big Bang Theory. C'est une série, en fait, qui se moque de vous, qui fait tout l'inverse de ce qu'elle était censée prôner. Elle se moque des gens, et elle juge. Ça ne peut pas être un bon message. Je vous remercie.
Nous, c'est nous, Grégory. Merci, merci beaucoup. Rendez-vous dans 15 jours, donc toujours pour nous parler de vos séries. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de cinéma. Il n'y a pas eu la chronique cinéma pour la bonne et simple raison que la semaine prochaine, nous aurons l'émission Train 7 avec tous les chroniqueurs habituels. Et là, on aura une heure pour vous parler de toutes les sorties que vous pouvez retrouver actuellement dans les salles et, si on a le temps, comme toujours, les sorties à venir. Ça sera la semaine prochaine. Mais l'heure est venue déjà de nous quitter. Alors, je voulais remercier, bien évidemment, Monsieur Jérôme Alouche d'être venu nous parler du Festival Jazz de Figeac qui aura lieu, on le rappelle, du 27 au 29 mai avec tous les renseignements donc sur le site et également sur la page Facebook. Merci à toi, Chloé Cardino, de nous avoir accompagnés sur cette émission et d'avoir remplacé très avantageusement.
Là, il va te charrier, en plus tu bafouilles.
Et en plus je bafouille. Merci à toi Tiffen, comme toujours, de ta fidélité pour nos émissions. C'était Ma Préférence, une émission d'Irène Finkel. Donc, comme je viens de le dire, à la réalisation, Tiffen Lemen. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission ainsi que de toutes les autres sur notre site d'Esprit Occitanie, www.espritoccitanie.fr, et également, bien entendu, sur notre application pour smartphone. Je vous dis à dans 15 jours pour Ma Préférence et à la semaine prochaine pour mon émission cinéma. Train 7. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.